Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Bella Ciao est l'hymne national italien à tue-tête à Rome. Des dizaines de milliers de sardines antifascistes ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale. Reportage de Bruce de Galzin. Mali, pays meurtri par les attaques terroristes, les autorités ouvrent aujourd'hui un dialogue national inclusif, consultation boycottée par l'opposition. Explication à Bamako de Kaourou Sangassa de Radio France Internationale. Au 10e jour de grève contre la réforme qu'il porte, il faut sauver le soldat Delevoye. Le haut commissaire aux retraites dont la bonne foi est totale, ce sont les termes du Premier ministre qui vole à son secours après de nouvelles révélations. Précision de Karine Bécard. Ne pas venir allonger la liste des partis, veiller à ne pas se substituer aux associations existantes sans se restreindre à une cause plutôt qu'à une autre. Ainsi pourrait-on survoler l'équation aux multiples variables que s'appliquent à résoudre les sardines. Sardines antifascistes, c'est sûrement là le plus petit dénominateur commun à celles et ceux qui se sont fixés l'objectif suivant. Redonner à la politique italienne un pouvoir d'attraction. Des sardines qui se sont donné rendez-vous cet après-midi à Rome en toute hétérogénéité. C'est un reportage de Bruce de Galzin.
Un simple camion pour servir d'estrade, à peine visible pour les dizaines de milliers de sardines. Une simple sono pour déclamer quelques poèmes que beaucoup ne pouvaient pas entendre. Mais cette place, si grande soit-elle, ne doit pas faire oublier les petites, selon Andrea, l'un des fondateurs des sardines.
La grandeur de la place, ça donne la mesure de la participation et du succès de la manifestation. Mais la beauté, c'est que ces valeurs, ces messages peuvent remplir les plus petites places d'Italie. La place Saint-Jean est un symbole, mais aucune place ne vaut moins.
Une place bondée avec des familles, des jeunes et beaucoup de moins jeunes comme Lucci à 80 ans.
Je les encourage car Romano Prodi les soutient et j'espère qu'il va bien les conseiller parce que c'est un homme sage et en Italie, on en a bien peu.
Aucune banderole, aucun parti représenté, beaucoup de silence, pas de cris. C'est une autre image que donne le pays pour Emma, une Romaine de 48 ans.
Je crois que c'est bien que ce pays qui vient de vivre un cauchemar avec Salvini et cette droite qui est vraiment une mauvaise droite donne un témoignage que ce n'est pas tous les gens avec lui.
Dès demain, les fondateurs et organisateurs des sardines se retrouvent pour évoquer leur avenir politique.
Une nuit n'aura pas suffi. Les représentants des 200 États réunis à Madrid dans le cadre de la COP25 prolongent leurs palabres afin de trouver un texte qui ne compromette pas outre mesure les engagements pris par les signataires de l'accord de Paris compte tenu des résistances de groupes pollueurs, encore quantité de blocages quant aux règles à édicter pour un marché carbone à même de répondre aux urgences climatiques. Comment le nouveau président algérien va-t-il composer avec les dizaines de milliers de manifestants qui contestent son élection? Abdelmadjid Tebboune, élu avec le plus faible taux de participation du pays, a semblé tendre la main hier lors de son discours, promettant notamment de modifier la constitution par référendum et de nommer plus de jeunes et de femmes dans son gouvernement. Cependant, que des manifestants étaient de nouveau arrêtés dans la rue à Oran, où un rassemblement a été dispersé à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. La répression est montée d'un cran depuis quelques mois. Le tout nouveau Comité national de défense des détenus et de leurs familles recense des centaines et des centaines d'arrestations politiques. Certains ont été condamnés, d'autres attendent leur procès. Mathilde Dehimi a rencontré le père de l'un de ses détenus, inquiet mais fier de son fils.
« Mon fils n'est pas un bandit », pose d'emblée Mostafa avant de raconter son arrestation dans une manifestation le 1er novembre, jour de fête nationale.
« Ils l'ont pris, il a été tabassé, malheureusement. Il avait des bleus un peu partout. »
On lui reproche d'avoir brandi le drapeau kabyle. Raouf, 30 ans, est incarcéré à la prison d'El Arache à Alger. Il vient d'arrêter sa grève de la faim.
« Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont mis que des slogans demandant une liberté, un pays honnête, des gens propres. C'est tout ce qu'ils ont demandé. » Maintenant, on ne sait pas. Il est avec ses copains, ils s'entraident, ils font ce qu'ils peuvent. Pour son moral, il est meilleur que le mien. Il est très fort de caractère.
Depuis, Raouf attend son procès. Au tribunal, raconte Mostafa, ils n'ont pas trouvé son dossier. L'élection du nouveau président peut-elle changer le sort de son fils?
Je ne sais pas. Hier, il a parlé de justice. Oui, ça dépend de quelle justice. On est dans le noir pour l'instant. Tout ce que je veux, c'est qu'on relâche tous ces prisonniers. D'abord, et à partir de là, s'il y a discussion, avec qui d'abord? et comment.
L'histoire les jugera, ajoute Mostafa, sévère. Dans la même prison que Raouf se trouvent deux anciens premiers ministres, lourdement condamnés mardi pour corruption.
Reportage de Mathilde Dehimi et Arthur Gerbeau à Alger. C'est la première décision de justice concernant Omar El-Béchir, l'ancien homme fort du Soudan, accusé de corruption. L'ex-président soudanais était condamné aujourd'hui à 2 ans de résidence surveillée par un tribunal de Khartoum dans ce procès concernant des fonds perçus de l'Arabie Saoudite. L'ancien chef de l'État encourait jusqu'à 10 ans de prison. Ce matin, le Conseil souverain a également dissous tous les syndicats mis en place sous l'ancien régime. Au Mali, le pouvoir a consulté et consulte encore ce qu'il est de coutume de nommer la société civile d'un pays meurtri par les attaques terroristes et divisé, d'où les éléments de langage privilégiés par l'équipe du président Boubacar Keïta au service d'un dialogue national inclusif qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako. C'est un reportage de Kaourou Sangassa de RFI.
Durant 9 jours, il sera question de l'avenir politique, social et sécuritaire du Mali. Les tractations ont pourtant duré jusqu'aux dernières heures pour que la participation soit la plus large possible. Les groupes armés du nord du pays seront bel et bien présents, mais les principaux opposants ont décliné l'invitation. Un dialogue national qui sera de facto pas tout à fait inclusif, mais pour Brema Elidiko, professeur de sociologie à Bamako, le point de vue de l'opinion sera central.
Et la société civile aussi est très remontée contre le président, bon, qui est jugé un peu incapable d'assurer la sécurité des Maliens, de conduire des réformes et notamment de résoudre la question de Kidal. Et donc il y a une lassitude et finalement, bon, les gens se disent bon, on peut discuter. Maintenant qu'il a pratiquement perdu la main, que cette fois-ci, étant contraint par la force des choses, qu'il sera obligé, tant soit peu, au moins de faire quelque chose dans le domaine sécuritaire, au moins quelque chose dans le domaine de la justice, parce que sans ça, c'est son pouvoir aussi qui peut en pâtir.
Officiellement, des consultations ont lieu dans 600 villes et villages pour faire remonter les doléances des populations. L'objectif sera donc de dégager des pistes de sortie de crise et des recommandations politiques. Une réforme constitutionnelle qui doit introduire plus de décentralisation fait partie des questions qui seront débattues. Mais face au terrorisme, les réponses les plus attendues seront d'ordre sécuritaire.
On l'a appris en début d'après-midi, la Corée du Nord a procédé hier à un nouveau test depuis la base de lancement de satellites de Sohae sur la côte occidentale du pays. Le deuxième en une semaine pour officiellement renforcer ses capacités de dissuasion nucléaire. L'actualité française avec le gouvernement qui multiplie les œillades à la CFDT pour la ramener à la table des négociations. L'âge pivot à 64 ans pour la retraite est négociable. Notre porte est ouverte, affirmait ce matin la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Agnès Pannier-Runacher. Quant au Premier ministre, il vole au secours de Jean-Paul Delevoye en charge de la réforme. Édouard Philippe juge que, je cite, la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. Fin de citation. Il faut dire, Karine Bécard, que la pression s'accentue au fil des révélations.
Eh bien, c'est vrai que la situation est en train de devenir extrêmement compliquée pour Jean-Paul Delevoye. Plus les jours avancent et plus la liste des manquements, des omissions de la part du haut-commissaire aux retraites s'allonge. Hier, c'était un poste certes bénévole d'administrateur à la Fondation SNCF que l'on découvrait. Et aujourd'hui, nouvelle révélation, le journal Le Monde a trouvé la trace d'autres mandats encore, notamment celui de président de l'Observatoire régional de la commande publique dans sa région, à savoir celle des Hauts-de-France. Alors soyons précis, toutes ces activités n'ont pas forcément besoin d'être déclarées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En revanche, elles doivent l'être absolument si elles sont susceptibles éventuellement de faire naître un conflit d'intérêts, ce qui potentiellement pourrait être le cas, par exemple, de l'Observatoire des Hauts-de-France. Donc Jean-Paul Delevoye aurait dû le faire savoir. Bref, il apparaît de plus en plus de zones d'ombre. L'entourage du haut-commissaire jure d'être en contact désormais avec la Haute Autorité pour éclaircir au plus vite tous les points qui doivent l'être. Maintenant, peut-il rester au gouvernement? Depuis presque une semaine, on observe toute la majorité qui fait bloc derrière lui. Pourquoi? Parce que, d'abord, le haut-commissaire aux retraites est le seul à maîtriser si parfaitement la technicité du sujet. Et ensuite, parce que l'Élysée n'a probablement personne pour l'instant pour le remplacer.
Et parmi les détracteurs de Jean-Paul Delevoye figure le député France Insoumise, Éric Coquerel.
Si je suis gentil, je dirais que quand on a autant de trous de mémoire, il est temps de partir à la retraite, et puis avec son projet sous bras. Bon, si je suis plus réaliste, je dirais que ça devient inexcusable. Vous avez des oublis qui concernent des secteurs qui, que ce soit la SNCF, que ce soit le domaine de l'assurance, auraient dû évidemment être déclarés et même empêchés à partir du moment où vous occupez un poste au gouvernement et surtout un poste concernant le dossier des retraites. Donc M. Delevoye, effectivement, ça affaiblit le gouvernement, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que ça soit son projet qui le retient.
Voilà, environ encore 25 000 foyers restés privés d'électricité à 17h30 tout à l'heure en France. 11 départements du sud-ouest resteront demain en vigilance orange crue. Et Météo France prévoit encore quelques pluies, le retour d'éclaircies sur le nord-ouest et le sud-ouest. Une perturbation s'étendra de la Gironde à l'Alsace-Lorraine. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, Marie-Claire Oumabadi. Excellente soirée à l'écoute de France Culture. Tout de suite, Avis Critique. Raphaël Bourgois.